la justice d'exception est un sujet non seulement d'actualité, mais d'actualité brûlante. Hein. Nous sommes dans l'état d'urgence. La question de rendre justice dans ce type de circonstances prend une lumière tout à fait originale. Originale et peut-être parfois inquiétante. J'ai le plaisir ici d'accueillir Vanessa Kodachemi, qui est professeure à Paris 8 et qui a écrit un livre tout à fait intéressant sur le sujet qui devrait nous aider à réfléchir. Pour dialoguer avec elle, nous avons aussi le plaisir d'accueillir mon collègue et ami Patrick Waxman. Patrick Waxman s'intéresse, qui est professeur à la Faculté de droit de Strasbourg, s'intéresse particulièrement à la question des droits de l'homme. Bien évidemment, la question des droits de l'homme est profondément articulée à la question de justice d'exception. Vous allez le voir en quelques minutes, que je m'empresse de laisser la parole à nos deux invités.
Merci beaucoup, Quentin. Bonjour, Vanessa Kodachemi. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir avec le public de la librairie Kéber. Vous avez donc écrit ce livre, Justice d'exception, sous-titré L'État face aux crimes politiques et terroristes, ce qui, malheureusement, depuis le 13 novembre, est en pleine actualité. Quentin Hermand l'a dit, et évidemment, c'est assez évident, malheureusement, pour tout le monde. Vous enseignez, comme il a été dit aussi, la science politique à Paris 8. Vous êtes auteur, outre ce livre, d'un livre intitulé Punir les opposants, Parti communiste français et procès politique 1947-1962, ce qui situe bien la continuité de votre démarche, mais en même temps, bien sûr, cela appelle la question classique, pourquoi avez-vous écrit ce livre? Pourquoi ce livre-là dans votre parcours scientifique et de chercheur?
Merci. Alors, je voudrais déjà remercier la librairie Kléber et puis l'Institut des études de justice de m'avoir invité. Je vous remercie aussi d'être venu m'écouter ce soir. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Il se situait dans le prolongement de mon doctorat de sciences politiques que j'ai réalisé à la Sorbonne et qui portait sur les procès politiques qui ont touché le Parti communiste français pendant la guerre froide, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. C'était ça mon sujet. Comment est-ce qu'on réprimande les membres du Parti communiste français ou Parti communiste algérien de 1947 à 1962. Donc ça, c'était ma thèse de doctorat que j'ai publiée, donc sous le titre « Punir les opposants », et je me suis dit « je vais continuer l'histoire de la répression politique et de la répression antiterroriste après la guerre d'Algérie ». Et quand j'ai commencé à travailler, je me suis aperçue que tous les ennemis intérieurs, tous les traîtres, entre guillemets, tous les comploteurs, entre guillemets, tous les terroristes, entre guillemets, étaient déférés devant une juridiction d'exception, qui avait été créée par le général de Gaulle juste après la guerre d'Algérie, la Cour de sûreté de l'État. Et je me suis dit, il faut que je travaille absolument sur cette Cour de sûreté de l'État, qui a duré pendant 18 ans, qui a jugé des milliers de militants, et qu'est-ce que ça nous dit de la justice française? Donc voilà, ça c'était la première raison. Et puis la deuxième, qui est un peu plus pragmatique, c'est que j'ai trouvé le fonds d'archives de la Cour de sûreté de l'État, j'ai contacté l'archiviste et il m'a dit: c'est très étonnant, il y a 500 cartons d'archives, personne ne m'a jamais demandé un seul carton, c'est un fonds qui n'est quasiment pas vendé. Donc je me suis dit, c'est vraiment une bonne occasion de travailler sur ce sujet-là. Voilà.
Absolument. Première question de ma part, pourquoi n'avoir pas intitulé cela la Cour de sûreté de l'État et ses suites? Puisque au fond, vous vous intéressez assez peu à ce qu'il y a eu avant. Vous en parlez de manière parfois un peu abusive, des juridictions militaires, etc. Pourquoi pas la Cour de sûreté de l'État?
Parce que ce qui m'a intéressé, c'est vraiment le traitement de la criminalité politique et de la criminalité terroriste par l'État. Et il me semble que ce que je dis dans mon livre peut tout à fait s'appliquer à d'autres types de juridictions, mais aussi peut inspirer d'autres types de recherches dans d'autres pays, pour d'autres périodes. Donc je voulais donner une portée plus générale à mon livre. C'était pour le dire de manière extrêmement claire. Il me semblait que la paix Cour de sûreté de l'État, c'était un peu réducteur.
Oui, sauf que vous montrez évidemment aussi que la Cour de sûreté de l'État est une juridiction d'exception, si je puis dire. Vous nous écrivez de manière très juste que c'est l'institutionnalisation d'exception. Est-ce que vous pouvez vous expliquer peut-être un peu là-dessus et éventuellement définir ce que vous entendez par juridiction d'exception, parce qu'au fond, C'est un terme qu'on ne définit pas toujours et dont on a tendance un peu à abuser.
Oui. Alors, une juridiction d'exception, c'est une juridiction politique. C'est-à-dire une juridiction qui est créée par le pouvoir exécutif et notamment par le chef de l'État. Si on regarde bien toutes les juridictions d'exception qui ont été créées dans l'histoire française, sous la Révolution, sous Vichy, à la Libération, pendant la guerre d'Algérie et même après, on voit que c'est toujours les gouvernements, le chef de l'État qui crée ces juridictions d'exception et quelquefois, c'est le cas de la Cour de sûreté de l'État, par le pouvoir législatif, c'est-à-dire par le Parlement. Et ça, c'est extrêmement rare. Donc ce sont des juridictions politiques qui sont voulues par le pouvoir central, par les autorités, pour pouvoir réprimer plus rapidement et plus sévèrement des ennemis politiques. C'est ça une juridiction d'exception, avec des caractéristiques communes à toutes les juridictions d'exception. Leur procédure est dérogatoire au droit commun, c'est-à-dire que leur procédure, par exemple, est expéditive. Leurs chambres de jugement sont différentes de celles d'un tribunal correctionnel ou d'une cour d'assises, puisqu'en général, elles sont composées de militaires de carrière, ou alors par des juges qui sont directement choisis par le pouvoir, par les gouvernements. Et puis, troisièmement, leurs modalités de jugement sont distinctes. Par exemple, il y a énormément de juridictions d'exception où on ne peut pas faire de recours devant la Cour de cassation. Donc, on voit très bien comment ces juridictions-là sont attentatoires au droit de la défense, au droit individuel et au principe du procès équitable. Quelle est la particularité, vous l'avez souligné, de la Cour de sûreté de l'État dans toute cette histoire ? C'est ça qui m'a passionné, c'est que c'est une juridiction qui a été institutionnalisée, c'est-à-dire qui a été créée pour durer dans le temps. Normalement, toutes les juridictions d'exception, comme la Libération, au moment de l'épuration, ou comme pendant la guerre d'Algérie, sont des juridictions qui sont faites pour durer sur une très courte durée, quelques mois. Il s'agit de réprimer très rapidement une population cible, les collaborateurs, l'OAS, les indépendantistes algériens, mais très rapidement. La volonté du général de Gaulle a été de faire durer cette juridiction d'exception par précaution nationale. Il disait, à l'imperfide, on ne sait jamais ce qui peut arriver, les traîtres, les comploteurs et les espions peuvent venir de toutes parts, donc faisons-la durer dans le temps. Et, alors que normalement une juridiction d'exception, ça dure 6 mois, 8 mois même pas, elle a duré pendant 18 ans, de 1963 à 1981, et c'est Robert Badinter qui l'a supprimé en 1981. Donc c'est ça sa spécificité dans l'histoire judiciaire française.
Oui, alors vous utilisez souvent, pour éviter de répéter la Cour de sûreté de l'État, comme nous faisons tous, pour essayer de trouver des termes de substitution, vous dites la juridiction gaulliste. Oui. Alors vous pouvez nous expliquer là-dessus, parce que
bien sûr.
Vous avez rappelé que le Parlement était intervenu, donc ça appelle quand même quelques précisions. Alors, ça ne me gêne pas, mais c'est parfois un peu curieux quand on en parle à propos du FLNC, après, ou de la gauche prolétarienne. La juridiction gaulliste, c'est comme l'ombre du général qui vient venger la France, ses ennemis éternels et retirés.
Je maintiens la juridiction gaulliste. C'était pour pas toujours répéter juridiction d'exception, c'est des facilités d'écriture, mais je crois vraiment que c'est une juridiction qui a été le bras judiciaire du général de Gaulle. Ça, c'est lui qui l'a voulu. J'ai travaillé en fait sur les archives de la Cour de sûreté de l'État, mais j'ai aussi travaillé sur les archives du général de Gaulle, qui sont à Saint-Denis. Il y a le fonds du président de la République, il y a le fonds du général de Gaulle, et on voit très bien la patte du général de Gaulle dans ce projet de loi. C'est-à-dire, c'est lui qui a vraiment été à l'instigation de cette Cour. Et alors, on ne va pas rentrer dans les détails historiques, mais je crois que c'est quand même très important. Pourquoi est-ce que le général de Gaulle a créé la Cour de sûreté de l'État, alors qu'il y avait à l'époque, à la fin de la guerre d'Algérie, énormément de juridictions d'exception. Il y avait des tribunaux militaires, etc. Et il y avait une Cour militaire de justice que le général de Gaulle avait créée pour juger les membres de l'OAS. Cette Cour militaire de justice, qui était très importante, parce qu'elle devait juger les auteurs de l'attentat du Petit Clermont, etc., le Conseil d'État l'a déclaré illégal. C'est-à-dire, il a dit que le général de Gaulle est allé trop loin, il porte une telle atteinte au droit qu'il faut supprimer immédiatement cette juridiction. Le général de Gaulle, voulant absolument juger les membres de l'OAS par une juridiction d'exception, eh bien, il a tout de suite fait recréer une Cour de sûreté de l'État qui échapperait à tout contrôle puisqu'elle a été créée par le Parlement. Et là, vous ne pouvez rien dire. Et quand on regarde la manière dont a été votée la Cour de sûreté de l'État, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tous les députés communistes, socialistes et beaucoup de centristes s'y sont opposés. Mais le général de Gaulle et les gaullistes ayant la majorité à l'Assemblée nationale, et ça donne beaucoup d'actualité aussi, cette Cour de sûreté de l'État, qui était affreuse en fait hein, pour toute la gauche, a quand même été créée parce que le général de Gaulle avait la majorité à l'Assemblée nationale. Et je préciserai aussi que pour être bien certain qu'il n'y ait pas trop de débats et pas trop d'opposition, notamment entre le Parlement et le Sénat, le gouvernement a mobilisé l'article 49.3 de la Constitution qui permet d'accélérer les débats. Ce qui fait que cette juridiction d'exception totalement dérogatoire au droit commun, au principe du procès équitable, etc., il y a eu 2 jours de débat à l'Assemblée nationale. Et elle a duré pendant 18 ans. Donc, pour moi, c'est une juridiction gaulliste hein, qui porte l'empreinte de la guerre d'Algérie et du général de Gaulle.
C'est ça, et du fait majoritaire de la 5e République, que la Constitution en permet l'expression, ce qui, premier parallèle avec l'actualité, est d'ailleurs différent, puisque ce qui est frappant face à l'état d'urgence, et notamment à sa prorogation, c'est justement le fait qu'on n'est pas obligé d'avoir recours à ces prérogatives d'exception dans la discussion législative, puisqu'il y a un consensus.
Oui, alors voilà, il faudrait. Moi, c'est une des choses qui m'a le plus frappée, comme je l'ai déjà dit à la radio et dans d'autres lieux, la déclaration d'état d'urgence, ça ne m'a pas étonnée. Et malheureusement, l'unanimité avec laquelle les députés l'ont voté ne m'a pas forcément étonnée non plus, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 11 septembre 2001, donc depuis les attentats de New York, le Parlement français vote toutes les lois. Antiterroristes, répressives, hein, et il n'y a quasiment plus de débat. C'est-à-dire que ces législations-là, aujourd'hui, elles sont votées à un quasi-consensus. Ce qui pose aussi un problème en termes de débat démocratique. Hein. Et aussi, juste par rapport à ce que vous disiez, ce qui est très intéressant de remarquer, c'est que vous savez que l'état d'urgence, la première fois que ça a été proclamé, c'était au tout début de la guerre d'Algérie, en 1955. Et à ce moment-là, il y a eu 230 députés qui s'y sont opposés. 230 députés pendant la guerre d'Algérie, combien s'y sont opposés en 2015? 6. Alors évidemment, on n'est pas, enfin, c'est dans un contexte d'attentat, etc., mais c'est quand même problématique du point de vue du débat démocratique, il me semble. Je close sur l'actualité.
Alors, je voudrais revenir un instant encore sur ces travaux préparatoires que vous avez étudiés, la loi de 1963, pour montrer que certaines concessions ont été obtenues à la marge. Exemple, si ma mémoire est bonne, réduction de la garde à vue dérogatoire de 6 jours, prévue initialement 4 jours, enfin 6 jours après. Mais dans le cadre du droit commun, quasiment, cette fois-ci, ce qui nous amène à d'autres perspectives que vous ouvrez. Mais je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que, au fond, les concessions que l'on peut obtenir au cours des débats parlementaires sont des choses importantes, et dans quelle mesure?
Ce que j'ai observé, c'est qu'effectivement, il est très important de regarder les débats parlementaires. Et il faudra, je pense, être très attentif les prochaines semaines sur les débats sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Ce que j'ai observé, c'est que les amendements déposés, s'ils sont votés et acceptés par le gouvernement, c'est ce que j'appelais des concessions à la marge. C'est-à-dire que le gouvernement, il ne va jamais céder sur les points les plus importants. Par exemple, il y avait 3 dispositions qui étaient vraiment très très décriées et refusées par la gauche au moment où on a créé la Cour de sûreté de l'État. C'était la comparution de mineurs devant une juridiction d'exception, ce qui était totalement attentatoire à tous les décrets sur l'enfance délinquante. Tous les députés de gauche ont voulu supprimer, de Gaulle et son gouvernement n'ont pas cédé.
Deuxième. Excusez-moi de vous interrompre, avec une concession que vous montrez, c'est-à-dire l'insertion à la Cour de sûreté de l'État dans ses hypothèses de magistrats spécialisés dans la justice des mineurs.
Dans la justice. Alors ça, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que la gauche a quand même obtenu que si des mineurs étaient jugés devant cette juridiction d'exception, que dans la chambre du jugement, il y avait un juge spécialisé dans l'enfance délinquante. Or, moi j'ai travaillé sur les dossiers de carrière des magistrats qui ont travaillé dans cette juridiction d'exception. En fait, oui, ils ont réussi quand même à trouver quelqu'un qui était très répressif et qui était passé à l'enfance. Donc, c'est vraiment des dispositions. Ils essayent. Moi, je pense que c'est quand même très important de dire qu'il faut essayer de déposer des amendements qui vont surtout restreindre. le champ d'application. Par exemple, dans la loi sur la Cour de sûreté d'État, ils voulaient réprimer tous les attroupements. Une manifestation aurait pu passer par la Cour de sûreté d'État, et les parlementaires de gauche ont réussi à faire rajouter attroupement armé. Armé. Et ce simple mot, eh bien, il réduit quand même énormément, il me semble, le champ d'application et les cibles. Donc, il y a des efforts, il y a des tentatives, mais les gouvernements ne servent sur rien, donc ni sur les mineurs, ni sur les militaires, parce que ce sont des militaires de carrière qui ont jugé des militants pendant 18 ans, avec des magistrats professionnels. Et puis la troisième mesure, je crois totalement dérogatoire, c'était la garde à vue, qui, en réalité, était prévue pour 15 jours maximum en cas d'état d'urgence. 15 jours. Et je crois que c'était donc 6 jours, si je me souviens son nom, sans état d'urgence, ce qui est énorme en fait. Et en 1970, la gauche a réussi à faire déposer un projet de loi pour réduire encore jusqu'à 4 jours, je crois, la durée de la garde à vue, où on est passé de 10 jours à 6 jours, ils ont un petit peu réduit. Mais voilà, les concessions sont très minimes. Hein. Le gouvernement, sur ces questions-là, cède très peu. Ou en tout cas, comment on pourrait dire ça? Il donne des petits bouts en disant, vous voyez, on a cédé sur ce point-là, on est quand même très libéral et très démocratique, vous voyez comme on a bien cédé sur ce point-là. Et je voudrais juste, pour faire un point d'actualité, il y a beaucoup d'individus qui disent, regardez, la loi d'état d'urgence de novembre 2015, elle est extrêmement bien, parce qu'on n'a pas mis le contrôle de la presse. Alors, c'est exactement pour moi l'exemple type de concession qu'on peut faire pour essayer de passer pour plus démocratique, hein. Parce qu'en réalité, le contrôle de la presse ne pourrait pas se faire aujourd'hui à l'heure d'Internet. Et c'est l'exemple de concession, il me semble, faite par un gouvernement pour passer pour plus démocratique. Voilà.
Oui, absolument. C'est un très vieux débat qui a surgi, sauf erreur, en 1894, après les anarchistes, lorsqu'ont été prises ces lois que je signe encore, comme leurs adversaires l'avaient signé, les lois scélérales, effectivement, où il y avait eu justement un pamphlet qui était dirigé contre ces lois scélérales, qui disait, au fond, on perd son temps dans la discussion parlementaire, parce qu'on arrache les bribes de concessions qui ont l'air d'être libérales, et qui masquent l'essentiel, c'est-à-dire qu'on a fait passer des textes inacceptables. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement, notamment effectivement par rapport aux débats actuels? Est-ce que la procédure législative, aux yeux, c'est une simple légitimation inacceptable moyennant quelques concessions mineures, ou bien est-ce que c'est l'occasion d'un vrai débat de fond?
À l'heure actuelle, aujourd'hui, je dirais que c'est la première solution. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a trop de consensus entre la droite et la gauche pour pouvoir dire qu'il va y avoir de vrais débats et de vraies discussions et de vraies avancées démocratiques sur ces législations-là. Moi, je crois au contraire qu'il faudrait réintroduire de la conflictualité entre la droite et la gauche sur ces questions. Et par rapport à l'arbre qui cache la forêt, juste pour faire encore un point d'actualité, je dirais qu'aujourd'hui, on a un arbre qui cache la forêt et c'est tout le débat sur la déchéance de nationalité qui, à mon avis, est là pour faire oublier le vrai problème, hein, qui est la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Donc je crois qu'en l'état actuel de la Ve République, hein, qui fait du fait majoritaire, qui est un vrai problème à mon avis, parce que ça peut faire passer vraiment des dispositions très répressives, et en l'état actuel du débat à l'Assemblée et au Sénat, où on voit qu'il y a des consensus sur des dispositions extrêmement graves, je dirais qu'aujourd'hui, il faudrait revoir un petit peu tout ça.
Mais comment ?
Ah, je ne sais pas. Je vais vous dire très franchement, je ne me suis jamais vraiment penchée sur tous les travaux qui sont sur la 6e République. Je me disais, oh, c'est de la 6e République, je le lirai plus tard. Vu ce qui se passe aujourd'hui, je peux vous assurer que je vais lire très attentivement tous les travaux sur la 6e République. Voilà.
Vous montrez que l'argument essentiel qui est mis en avant pour essayer de justifier cette institutionnalisation de juridiction d'exception réside dans l'argument d'autorité, les juridictions ordinaires, la procédure pénale ordinaire ne permet pas d'éradiquer le danger. Alors, vous pouvez vous montrer ça, et là encore, ça évoque évidemment quelques échos contemporains.
Alors oui, tout l'argument du gouvernement, chaque fois qu'il y a une crise majeure, c'est de dire le droit commun ne suffit pas. Ça, c'est classique. Le droit commun n'est pas apte à faire face à une forme de criminalité politique ou terroriste qui est toujours décrite comme nouvelle. Si vous regardez, tout au long de notre histoire, on a toujours dit il y a une nouvelle forme de violence politique. Aujourd'hui, violence terroriste. Les kamikazes, c'est nouveau, donc on va, attention, on n'est pas adapté, il faut adapter toujours, donc on va voter encore et encore. Ça ne s'arrête jamais en réalité. Parce qu'évidemment, les individus, ils s'adaptent aussi, ils ont toujours des nouvelles modalités d'action. Et donc cet argument de la nouveauté est toujours là pour modifier l'appareil répressif. Sur la question de la justice ordinaire, pourquoi est-ce que les gouvernements ils ont intérêt à dire que la justice ordinaire ne suffit pas? Et bien comme ça, ils peuvent mieux maîtriser le déroulement d'une procédure judiciaire. Dans le cas d'une juridiction d'exception, quel est l'intérêt pour le pouvoir central de dire que la justice ordinaire ne suffit pas? Et bien c'est de créer une juridiction en mettant des juges qu'on connaît, personnellement ou pas, dont on sait qu'ils sont très répressifs, et donc on va pouvoir donner des petites consignes sur les verdicts, sur la manière de mener l'affaire. Alors, j'en ai pas parlé dans mon livre, mais il y a des choses qui m'ont énormément marqué. Bon, pourtant, c'était la répression de l'OAS, mais quand il y avait certains procès de l'OAS qui étaient très, disons, intéressants pour le général de Gaulle, le juge d'instruction, le premier président et certains juges du siège allaient directement voir le général de Gaulle pour discuter de l'affaire. Ce qui montre évidemment l'intérêt d'avoir une juridiction d'exception parallèle. Et donc, et c'est pareil pour aujourd'hui, le droit commun est présenté comme ne suffisant plus, je ne suis pas d'accord avec ça, donc on va contourner le droit commun en mettant de plus en plus d'exceptions, en donnant de plus en plus de pouvoir à la police et à l'administration au détriment de la justice. Et ce qu'on voit, mais ça, en ayant travaillé sur la répression politique depuis la Deuxième Guerre mondiale, on voit qu'en réalité, le pouvoir veut toujours contourner la justice ordinaire. Toujours, toujours. Parce que la justice ordinaire, elle réintroduit de l'aléatoire. Le gouvernement ne peut pas la maîtriser totalement, cette justice ordinaire. Donc on va essayer de la contourner par plusieurs moyens. Soit en créant des juridictions d'exception, soit en essayant de placer des juges qu'on connaît, etc. Donc ça, c'est tout à fait classique. Et évidemment, c'est le plus inquiétant de ces dispositifs-là, c'est ce contournement de l'autorité judiciaire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question.
Oui, vous en posez de nouvelles, bien sûr, on prend cette réponse. Vous évoquiez les cours d'assises compétentes en matière de terrorisme. À vos yeux, vous diriez que c'est une juridiction d'exception.
Bien sûr.
Alors, on a justifié ça, vous l'indiquez dans votre livre, par un épisode qui était les menaces dirigées contre les jurés au moment du procès d'action directe. Alors
si vous pouvez
raconter ça.
Alors, je vais raconter ça. En fait, il faut comprendre que, donc en 1981, la gauche arrive au pouvoir et dit « on retourne au droit commun ». Avec ça peut poser aussi certains problèmes, c'est-à-dire tout le monde va être jugé par les tribunaux correctionnels ou les cours d'assises. On supprime la Cour de sûreté de l'État, on supprime les tribunaux militaires. La droite, évidemment, est totalement contraire, vous vous en doutez. La droite a toujours voulu recréer la Cour de sûreté de l'État. Dès 1985, le RPR fait des propositions, réfléchit à comment on pourrait recréer la Cour de sûreté de l'État. Évidemment, ça ne marche pas. En 1986, vous avez un procès extrêmement important d'action directe, qui est le procès de la fusillade de la rue de Trudel. C'est trois membres d'action directe qui ont tué des policiers dans la rue. Le procès doit se dérouler à la cour d'assises, et que fait action directe? Quelque chose qui est très rare à l'extrême gauche, mais de manière générale, qui est plutôt une tactique d'extrême droite d'ailleurs, c'est que l'action directe va menacer de mort les jurés, en disant, si vous êtes là, si vous nous jugez, on va vous tuer. Et donc, on a pris ce prétexte-là pour dire, vous voyez, on ne peut pas juger les terroristes par une juridiction normale, donc on va créer une autre justice. C'est la cour d'assises sans jury, qui donc va juger Action Directe, le FLNC, Colonna, Georges Ibrahim Abdallah, etc. Pourquoi est-ce que c'est une juridiction d'exception pour moi? Parce qu'elle introduit un régime répressif parallèle, différent. C'est une même institution judiciaire, une cour d'assises, qui est donc normale pour tout le monde, pour vous, pour moi. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas des terroristes, donc on serait jugé par une cour d'assises normale. En revanche, quelqu'un qui est inculpé de crime terroriste va passer devant une juridiction où il n'y a plus de jury. où il n'y aura que des magistrats professionnels et où les verdicts vont être adoptés à la majorité simple et non à la majorité des deux tiers, ce qui est en réalité beaucoup plus moins bon pour les inculpés en réalité, c'est beaucoup plus aggravant. Voilà, bon, alors on peut en discuter, est-ce que c'est normal ou pas, d'accord, bon. Je dis en tout cas que c'est une juridiction d'exception, puisqu'elle instaure un régime différent, distinct, des justiciables ordinaires. Et je précise par ailleurs que Robert Badinter, en 1982, avait dit « Dans certains cas, je veux bien qu'il y ait des cours d'assises sans jury. » Quels sont ces cas-là? En 1982, il dit ça. Il dit quand il y aura des secrets de défense nationale, c'est-à-dire des militaires qui vont être jugés avec vraiment des secrets de défense. Mais il a précisé dès 1980, jamais il ne faudra instaurer de cour d'assises spécialisée dans la répression du terrorisme. Il a toujours dit, il ne faut pas le faire. Et 4 ans plus tard, quand la droite revient au pouvoir par le biais de la cohabitation, c'est exactement ce qu'on a fait. Je précise quand même, et je finis par là, qu'aujourd'hui la cour d'assises spécialement composée ne sert quasiment plus à rien en matière terroriste, puisque 90% du contentieux en matière terroriste, c'est le délit d'association de malfaiteurs qui est jugé par le tribunal correctionnel. Donc aujourd'hui, c'est le tribunal correctionnel qui est au cœur de l'appareil antiterroriste et non plus la cour d'assises spécialement composée. Et puis on voit très bien avec les attentats du Bataclan que, évidemment, on ne va pas punir les crimes terroristes aussi. Voilà, je ferme en parenthèse.
Donc ce n'est pas la peine de créer des juridictions, ce n'est plus la peine de créer des juridictions d'exception.
Non, ça ne sert plus à rien et le pouvoir n'est pas du tout intéressé.
Ce qui est quand même intéressant dans 86, justement, c'est que le pouvoir enfin la majorité de droite de l'époque, a bien conscience du fait qu'on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus recréer une cour de sûreté de l'État. Vous montrez également, c'est au prix évidemment d'une sorte de... D'une sorte de diffusion dans le droit commun de tout ce qu'il y avait avant de dérogatoire dans les juridictions d'exception, mais quand même il n'y en a plus. Ou pour la cour d'assises spécialement composée, c'est tout de même beaucoup moins dérogatoire que c'était
tout à fait.
Oui. Donc il y a quand même, entre guillemets, avec pour l'interrogation, progrès.
Non. Vous saviez que j'allais dire ça, c'est un piège. Non, il n'y a pas du tout de progrès, au contraire. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pire qu'avant, parce que avant, tout, il y avait énormément de dispositifs dérogatoires au droit commun ou d'exception qui étaient contenus par la Cour de sûreté de l'État. C'est-à-dire que vous vouliez garder à vue quelqu'un terroriste ou un criminel politique pendant 6 jours en garde à vue, vous pouviez le faire que parce que il allait y avoir une commission rogatoire d'un juge de la Cour de sûreté de l'État. Hein? Ou en tout cas, il fallait que ça soit lié à la Cour de sûreté de l'État. Aujourd'hui, pour garder à vue quelqu'un pendant plusieurs jours de manière dérogatoire, il n'y a plus besoin de juridiction d'exception. Hein? Deuxième exemple que je donne, c'est la spécialisation judiciaire en matière terroriste. Avant, les juges antiterroristes, disons, les juges spécialisés dans les violences radicales étaient des juges de la Cour de sûreté de l'État. Aujourd'hui, c'est des juges du parquet de Paris, hein, c'est des juges antiterroristes. C'est Marc Trévidic, hein, etc. Qui sont, à mon avis, dont les ancêtres sont les magistrats de la Cour de sûreté de l'État. Mais on les a fait rentrer dans le droit commun, aujourd'hui. Donc, en réalité, de nombreux dispositifs qui étaient tout à fait contenus par la Cour de sûreté de l'État ont été réactualisés et mis dans le droit commun aujourd'hui et peuvent toucher de plus en plus d'individus. C'est-à-dire, ce qu'on voit très bien, c'est que des dispositions créées pour lutter contre le terrorisme peuvent progressivement s'appliquer à des militants dits radicaux. Et c'est ça, à mon avis, le danger. Et je pense que ça aurait été moins le cas avec, enfin, c'est terrible à dire, hein, avec une juridiction comme la Cour de sûreté. Ben vous savez, quand j'ai commencé à travailler, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est affreux, cette Cour de sûreté de l'État, c'est horrible, il faut dénoncer. En fait, plus j'ai regardé, plus je me suis dit, bon, c'était affreux, mais il y avait quand même des avantages pour les accusés. Et j'ai discuté avec des Corses, hein, notamment, où j'ai quand même pas mal, regardé des publications du FLNC, mais des nationalistes, etc., qui disaient, quand est-ce qu'on refait la Cour de sûreté de l'État? Je dis, comme c'est curieux, plus de dire ça. Pourquoi ils veulent une juridiction d'exception, cela ? Et en fait, si on regarde bien, une juridiction d'exception, ça permettait quoi à certaines personnes ? D'être traitées comme des politiques, des criminels politiques, et non pas comme des droits communs. Et ça, c'était extrêmement important pour des militants. Déjà parce que ça permettait d'avoir en prison un régime dit spécial, qui n'existe plus. Il n'y a jamais eu de statut de prisonnier politique en France, hein. Il n'y a jamais eu de régime politique en prison. Mais par le biais de la Cour de sûreté d'État, on pouvait avoir un régime spécial pour des militants, en réalité. Hein. Et dont ils étaient très fiers, hein, qui avaient été obtenus par des luttes, etc. Et puis deuxième chose, on pouvait faire de grands procès politiques. Et ça, c'était extrêmement intéressant de pouvoir faire de grands procès politiques. On était médiatisés, on pouvait diffuser des causes, on faisait des grandes déclarations, il y avait des grands avocats militants. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On ne peut plus. Et moi, j'ai discuté avec beaucoup de militants réprimés qui regrettent aujourd'hui de ne plus pouvoir politiser des procédures judiciaires, c'est-à-dire de ne plus pouvoir diffuser de causes par le biais du prétoire et par le biais de la répression. C'est-à-dire, et c'est ce que j'avais déjà montré avant, la répression, parfois, je sais que ça choque quand je dis ça, mais je le dis quand même, la répression, parfois, elle est utile à certains groupes, à certaines causes, parce qu'elle peut être détournée politiquement, elle peut être utilisée de manière politique. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et même certains militants, activistes, hein, voudraient aujourd'hui trouver des avocats qui vont leur faire une défense politique à la Jacques Vergès, etc. Ça n'existe plus vraiment aujourd'hui, et certains le regrettent. Donc je ne sais pas si je le regrette, mais en tout cas, donc pas mal de gens le regrettent.
Il y a un peu de nostalgie quand même.
Oh, non, je n'ai pas de nostalgie pour les juridictions angolistes, mais... Pour certaines choses, mais par exemple, c'est vrai que une chose que peut-être je regrette, oui, c'est la non-prise en compte parfois des intentions politiques. C'est-à-dire aujourd'hui, on va considérer que tout se vaut, l'intention des acteurs soit elle est pathologisée, c'est-à-dire on va dire c'est des malades mentaux. Donc une fois qu'on a dit que c'est des malades mentaux, le débat est totalement évacué, hein, vous voyez bien. Une fois qu'on dit que c'est des fous, vous voyez très bien de quoi je parle, ça évacue complètement le débat. Donc on pathologise, on va dire qu'il n'y a rien de politique dans ce qui a été fait, etc. Ça par contre, je pense que je suis un peu nostalgique de ça, oui, peut-être. De la prise en compte d'intentions politiques parfois, d'un contexte, d'une lutte, etc.
D'accord. Alors il y a un autre aspect de votre recherche qui m'a beaucoup passionné. C'est, je dirais, l'image de la magistrature que renvoie la question au cours de sûreté de l'État, où vous montrez bien qu'au départ, il y a une opposition entre, disons, l'éthos du juge traditionnel, impartial, à la préméditation politique, ou généraliste, dans son approche des procès, qui peut juger aussi bien au civil qu'au pénal, etc. Et d'un autre côté, l'apparition d'une nouvelle figure, qui est la figure du magistrat qui utilise sa proximité cultivée avec le pouvoir politique et qui en même temps va se spécialiser. Oui. Alors, est-ce que en même temps, vous montrez que les deux profils, je dirais, se rejoignent et se rejoignent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous venez de le rappeler à l'instant, dans le sens d'une assez grande équité dans les jugements de cette Cour de sûreté de l'État.
Alors, il y a deux choses qui... En fait, je me suis dit que je travaille sur les dossiers de carrière des magistrats qui sont passés par la Cour de sûreté de l'État. J'ai dit, je vais les prendre tous et je vais regarder un peu qu'est-ce qu'ils ont en commun. Et en fait, j'ai eu des surprises. Hein. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de magistrats résistants dans cette juridiction d'exception. C'est bizarre, quand même, des résistants qui finissent là. Et en fait, ça s'explique, hein, parce qu'ils y allaient parce que c'était de Gaulle. Et que la plupart des magistrats étaient gaullistes et avaient une grande admiration pour De Gaulle. Mais effectivement, ce qui m'a intéressé, c'est qu'à partir de la Cour de sûreté d'État, donc pendant 18 ans, on a des magistrats qui vont se spécialiser dans les violences radicales, dans ce qu'on appelait à l'époque les atteintes à la sûreté de l'État. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ce sont les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, c'est le terrorisme. Et ces juges-là, pourquoi est-ce qu'ils y vont ? Parce qu'ils ont de multiples rétributions. J'ai montré que... J'ai vu hein, les trucs de salaire, etc. On voit qu'en fait, ils peuvent doubler leur salaire s'ils vont à la Cour de sûreté de l'État, par exemple. Ils ont des chauffeurs, ils ont des médailles, ils ont la Légion d'honneur, etc. Et puis, c'est surtout qu'ils ont des avancements et des promotions extraordinaires. Passer par la Cour de sûreté de l'État, ça pouvait signifier pouvoir accéder à la haute magistrature. la Cour de cassation, etc. Alors que ça aurait été impossible pour eux, pour plein de raisons, parce qu'ils sont, c'est pas des juges parisiens, ils ont souvent des mauvaises carrières, ils ont eu plein de scandales. Alors je n'ai pas osé le faire, je ne le ferai pas. Mais en fait, quand on travaille sur les dossiers de magistrats, on voit les, plein de scandales liés à leur vie privée, par exemple, hein, et qui jouent sur leur carrière. Une, par exemple, une relation extra-conjugale, c'est très très mal vu à l'époque, hein, ça peut vous freiner dans votre carrière. Et donc il y a plein de juges comme ça qui sont un peu mal notés, mal vus, et qui en fait se refont une réputation par la juridiction d'exception. Et là où c'est intéressant, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que ces juges-là, non seulement parfois, ils sont par exemple à la cour d'assises et à la fois à la salle de sûreté de l'État, donc ils sont à la fois des juges ordinaires et des juges d'exception, mais c'est surtout qu'ils n'y restent pas pendant 18 ans, sauf quelques-uns, c'est qu'ils restent 5 ans et après ils partent ailleurs. Donc c'est des juges qui sont à mon d'exception et puis qui redeviennent des juges ordinaires après. Ça c'est vraiment très intéressant, ça montre quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui est qu'on ne peut pas opposer justice d'exception et justice ordinaire. Les deux fonctionnent souvent hein, de manière un peu croisée. Et par rapport à ce que vous disiez, j'ai regardé les verdicts et j'ai trouvé que pour une juridiction d'exception, c'était pas génial, quoi. Je me suis dit, le général de Gaulle ne devait pas être tellement content, parfois. Et même après, dans certains procès, on voit il y a eu des jugements très très lourds. Hein. L'un des jugements les plus lourds, je vais vous donner le cas, c'est deux militants du Front de Libération de Bretagne qui en fait ont commis un attentat extrêmement grave, qui ont commis un attentat à la galerie des glaces du château de Versailles. 4 millions de dommages et intérêts. Bon, ils ont pris 15 ans de prison. Voilà, ça c'est un des procès les plus réprimés. Mais ensuite, si on regarde, on voit très bien qu'en fait, les magistrats du siège, ils répriment pas tellement férocement. Et des fois, ils se font même gronder un petit peu, hein, parce qu'ils ne jugent pas assez sévèrement. Et donc, ils régulent un peu, finalement, les visées de répression du pouvoir central.
Autrement dit, la créature se retourne contre son créateur, comme il est assez fréquent et assez moral, je trouve. Et donc, l'outil qu'on croit à sa main ne l'est pas tant que ça.
Ne l'est pas en même temps, je vais vous dire, c'est pas tout à fait vrai ce que j'ai dit, parce que mon hypothèse à moi, et je crois qu'elle se vérifie de plus en plus, c'est que le procès et la peine prononcée au moment d'un procès n'est plus le plus important à partir d'un moment. Ce qui est important, c'est de pouvoir emprisonner des gens avant le procès. C'est-à-dire de pouvoir les enfermer pour les déradicaliser, pour les couper de leur réseau, pour désorganiser l'organisation. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que par exemple, il y a des gens qui restent des mois, voire des années en prison, et après finalement, ben, désolé, on s'est trompé, ou alors ils ont des peines qui sont couvertes par la détention déjà effectuée. Et en réalité, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est la répression avant le procès. Les arrestations, les perquisitions, les examens psychiatriques, puisque voilà, j'ai aussi travaillé sur les examens psychiatriques de militants. Donc, toute une forme de répression, comment on dit, pré-verdict.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est davantage vrai de la Cour de sûreté de l'État d'après De Gaulle que de la Cour de sûreté de l'État sous De Gaulle, ça ?
C'est-à-dire que sous De Gaulle, il fallait le juger très rapidement.
Il fallait punir.
Et j'ai monté. En fait, pour l'OS, hein, les magistrats, les plus pauvres, ils devaient juger, je crois, 900 individus en 3 mois. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ne dormaient pas, ils vivaient à l'hôtel en face du tribunal, ils jugeaient à la chaîne, etc. Et le général de Gaulle avait quand même, ça c'est très important, des idées très précises. Les jeunes ne devaient pas être trop réprimés, les vieux non plus, les femmes non plus. Lui, c'était un chef, donc lui, il devrait être plus réprimé que l'autre. Et les juges ont appliqué strictement les directives du général de Gaulle sur ce point-là. Sauf que après le général de Gaulle a amnistié les membres de l'OAS, hein, il y en a même gracié plusieurs. Ce qui fait qu'en réalité, c'est très particulier cette répression de l'OAS, parce qu'elle se déroule à un moment donné où on sait qu'il va y avoir une amnistie. C'est-à-dire les juges sont chargés de punir très sévèrement des gens à la chaîne, dont ils savent qu'ils vont être amnistiés pour la plupart. Donc c'est très curieux. Je me demande aussi, ça m'a beaucoup intéressé cette question-là. Comment juger des gens alors qu'on veut les réprimer très fortement en sachant qu'ils vont être amnistiés? C'est très curieux, je trouve, comme
Oui, ce sont les tours de pouvoir.
C'est ça, c'est tout ce qui se passe.
Ouais, tout à fait. Alors je voudrais en venir à un peu autre chose par rapport à ce dont nous parlions. Michel Foucault, visiblement, compte beaucoup pour vous. Vous reprenez d'abord ses méthodes, notamment le travail d'archives
justement de retracer. Il y a de très beaux portraits de magistrats, très paradoxaux, très, très étranges, que vous développez dans votre livre, qui sont vraiment passionnants, je trouve. Et puis aussi, je pense, une sensibilité à des aspects du pouvoir qu'on ne montre pas toujours, notamment cet aspect réciproque de la relation de pouvoir, qui explique, par exemple, ce que vous y avez aussi fait allusion à l'instant, le choix devant lequel les militants politiques poursuivis par la Cour de sûreté de l'État sont classés, ou bien essayer de casser le procès en faisant des défenses de rupture, en dénonçant le tribunal comme illégitime, ce qui a sa cohérence, bien entendu, surtout dans ce cas-là, ou alors, d'autre part, jouer le jeu du procès et s'en servir d'une manière retorse.